Gouinement Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.
Donc on est de retour dans Gouinement Lundi sur l'émission consacrée à la visibilité des lesbiennes dans les médias. Et on va revenir avec Michèle Larouy sur l'histoire justement de la presse lesbienne et féministe. Et donc tu me disais à l'instant qu'il y avait 40 revues dans les années 60-70.
Non pas 60, 74-76, il y a eu à peu près, revue francophone, il y en a eu à peu près entre de 20 à une quarantaine, oui, tout à fait.
Et que ces revues étaient issues d'un besoin militant très fort.
Alors, d'un besoin militant, en même temps, bon, voilà, on constate en 2005-2006, quand on commence à faire le bouquin, et on s'aperçoit que vraiment, il y en avait énormément. Besoin militant, on va dire qu'il y a le torchon brûle pendant près de 2 ans, 1 an et demi. Et puis, cette pseudo-sororité politique s'ébranle, comme d'habitude, parce que on commence à avancer politiquement et à analyser un peu plus précisément. Et cette vision MLF, toute sœur, etc., ça commence à bouger, aussi bien entre hétéros et lesbiennes qu'entre différentes postures politiques classiques. Voilà. Parce que parallèlement, se développait quand même un mouvement d'extrême-gauche, plutôt trotskiste en France, qui était assez important. Et puis, parallèlement encore, il y avait le PC et le PS qui, petit à petit, à partir de 76 ou 75-67, vont faire un programme commun qui va aboutir à ce que Mitterrand soit élu en 81. Donc les féministes, elles sont là-dedans, évidemment. Donc elles vont créer une presse. Elles vont se diviser, elles vont dire « Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas trotskiste, donc hop, je fais autre chose. Je suis plutôt psychépo, donc hop, je fais un journal. » Psychépo a fait un journal qui a été quotidien pendant quelques mois, mensuel, parisien et toulousain, par exemple. C'est ahurissant. Elles ont fait des journaux régionaux. Donc, parallèlement, enfin, on va dire d'une manière concomitante, qu'est-ce qu'ont fait les lesbiennes? Elles ont voulu... Elles ont rompu avec ce mouvement féministe qui était de plus en plus avant-gardiste et réformiste, c'est-à-dire collé à ce programme commun à l'époque. Et donc, elles ont dit, bah, nous, qu'on soit encarté ou pas, qu'on soit de telle ou telle tendance, on veut visibilité la posture du lesbiennisme. C'est-à-dire, c'est une pratique sexuelle, mais c'est aussi un refus d'appropriation. On refuse le mariage ou on divorce. On veut garder nos gosses ou on n'en a pas. Il n'y avait pas encore l'idée de procréation. Ça s'est développé, on va dire, plutôt autour des années 90. Et donc, voilà, on est féministe ou on ne l'est pas. On est matérialiste, on est radical. Tout ça, ça a tourné entre 76 et les années 80. Donc avec un mouvement féministe qui s'est un petit peu délité. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de revues, de journaux. Puis petit à petit, à partir de 78, il y en a eu moins. Parce que ça coûte, parce qu'il y a eu de plus en plus de divisions et des nanas qui sont barrées. Et puis plutôt les années 80, oui, Lesbia Magazine. Avant, il y avait eu Désormais. Et Lesbia va tenir le coup quand même jusqu'aux années, milieu des années 2000. Voilà, on pourra revenir sur Lesbia Magazine et sa gestion totalement bénévole, avec des pseudos au début, comme presque toutes les revues à l'époque ne visibilisaient pas. On considérait qu'on devait écrire au nom d'un collectif. Donc on avait des pseudos où on s'appelait le collectif, truc machin, les petites marguerites, etc. Le revendiquer un article et le revendiquer pour le fond et comme la forme, c'est arrivé vraiment, on va dire, au milieu des années 80. Voilà.
Et quand même, un des points communs aussi entre toutes les publications lesbiennes ou féministes, c'est la non-mixité.
Tout à fait. La non-mixité homme-femme.
Oui, la non-mixité. Et donc, pourquoi ce choix de non-mixité? Pas avec de mixité homo, c'est-à-dire sans homme gay qui était dedans, pas aussi.
Ça, il y a eu et il n'y a pas eu. C'est-à-dire, Masque, par exemple, est une des premières belles revues culturelles et politiques où il y avait kiff-kiff autant de garçons que de filles. Je crois que c'était 8 garçons et 8 filles, par exemple, à l'époque. Et ça a tenu jusqu'à ce que les garçons, très sympathiquement, ont créé dans le dos des filles une maison d'édition Persona. Et donc, à ce moment-là, elles se sont senties trahies, elles se sont barrées. Mais pendant tout ce temps, elles ont témoigné d'un travail tout à fait cohérent et équilibré, voilà, avec des... La revue est d'un très très bon niveau, hein, Masque. Je crois qu'elle n'a pas été rééditée comme QF a pu être rééditée en...
Question féministe pour QF.
Oui, pardon.
Mais pourquoi ce besoin de non-mixité ?
Bon, moi, je pense que si on reprend les revues, même les revues du 19e, il y a des commissions femmes. Il y a des commissions femmes et il y a des journaux qui sont, par exemple, de femmes salariées qui sont dans un secteur, entre guillemets, féminin. Donc on va retrouver ça chez les syndicalistes, au Parti socialiste plus tard et au Parti communiste aussi. C'est quelque chose qui, de fait, dans la presse, est vraiment d'une grande importance. Bon, idéologiquement, bah, les femmes considèrent que quand elles sont sans hommes dans des réunions et donc aussi dans des créations et des inventions, là, pour ce qui nous concerne la presse, il est évident qu'elles considèrent qu'elles ont envie de faire par elles-mêmes parce que sinon, ça pose problème. À l'époque, se sont créées plusieurs imprimeries de femmes. Donc Voix Off, qui était tenue par des lesbiennes, à La Fourche, à côté de la place Clichy. Et puis, il y en avait une, je crois, vers Toulouse. Et puis, il y a eu une autre qui s'appelait Voix d'Elle. Enfin, il y a eu plusieurs imprimeries. Donc, elles montaient leur journal. Elles le montaient en typo, enfin, avec les typos, la mise en page, etc. Elles le clichaient à l'ancienne, offset, et puis elle l'apportait là-bas. Il y avait plusieurs machines offset. Je ne sais pas si tu as vu dans le bouquin, il y a une très jolie photo montrant les deux imprimeuses là, voilà.
À partir de 1985, en fait, ces revues ou ces fanzines, enfin comme ont commencé à disparaître, et avec la création des premières revues universitaires. Donc là, est-ce qu'on peut dire c'est la fin d'un mouvement radical ou...
Bah, encore une fois, c'est vraiment une période clé. C'est vraiment le début de l'épidémie du sida. Les lesbiennes sont dans la solidarité avec les gays qui meurent comme des mouches pendant des années. Parallèlement à ça, il y a une visibilité qui est plus soft, qui est plus tranquille. C'est-à-dire qu'on va créer ces lieux. Il y a des journaux stables. Il y a des journaux stables, SBM Magazine est stable, voilà, et cette presse, elle va être quand même assez politique pendant, on va dire, jusqu'à la fin des années, jusqu'aux années 98 à peu près, quand Catherine Gonnard part, pour moi, ça se délite et ça devient même à la fin totalement réactionnaire, puisque une ou deux vont aller jusqu'à voter Le Pen quand même en 2003. Je veux dire, moi, j'ai toujours dévoilé ce genre de choses. On n'est pas que lesbienne hein, dans la vie. On est aussi de droite ou de gauche, d'une classe sociale donnée, d'une histoire donnée, exilée ou autre. Et je pense que c'est aussi ça aujourd'hui le problème des revues, ou qu'elles soient papier ou pas, c'est de quoi on parle, voilà, qu'elles font. Et comme c'est quand même très lourd, les débats aujourd'hui et les luttes aujourd'hui, on n'a qu'à voir ce qui se passe en ce moment. Je pense que des fois, on marche sur des œufs. Et bon, quand on dit, par exemple, on fait une presse paillette, voilà, moi, je m'interroge sur les presses paillettes, même si j'adore les paillettes, voilà.
Et par rapport aux revues universitaires ?
Oh ben pour moi, c'était totalement important. Enfin, je veux dire, les premières revues, ça s'est passé à Toulouse et Aix-Marseille. Et pour moi, les années 80, bah oui, c'est une année où on commence à se dire qu'il y a une histoire et qu'il faut la garder, qu'il faut absolument pas la perdre. Donc, va se créer un certain nombre de réseaux. Entre autres, quand les archives lesbiennes se créent, au milieu des années 80, Claudie Lessulier et quelques autres décident de regrouper des chercheuses et d'essayer de faire que ça soit, je vais pas dire populaire, mais d'essayer que ça soit accessible, ce qui est difficile hein, en France. Hein. Je veux dire, les revues vont être quand même d'un très bon niveau, mais souvent rester dans leur tour d'ivoire, ce qui est différent dans d'autres régions. Peut-être Stéphanie pourrait...
Non, excuse-moi.
je trouve que c'est compliqué en France, le croisement entre... je pense, mais je suis lesbienne, j'en témoigne. Il y a quand même encore à l'heure actuelle des chercheuses qui n'ont pas revendiqué leur lesbianisme politique publiquement. J'espère que ça sera avant la fin de leur vie, mais je vais essayer. J'adore faire ce genre de propos, donc peut-être qu'avant
de... Il faudrait les faire venir dans l'émission.
Ah, oui, bah oui, ouais. Pas de souci.
Il n'y a jamais eu vraiment de magazine un peu mixte où on peut trouver des sujets sur les gays et les lesbiennes
ensemble. Oui, tout à fait. Il y a eu un journal qui était très politique et qui dénonçait la remontée du fascisme, enfin de l'extrême droite dans les années 80, c'est Homophonie. Mmh. C'est un très très bon... Ah ouais. Guépier, à des moments donnés, j'ai pas retravaillé sur Guépier depuis longtemps, mais il y avait de très bons articles. Mais Homophonie était tenue, là ouais. aussi, par des lesbiennes et des gays, et qui étaient issus du QR, issus de même les plus anciens du phare, donc les prémices des courants homosexuels des années fin des alors, années 60. Et effectivement,
expliquer ce que QA et le phare.
Alors le QA, ça devait être comité d'urgence d'action et d'urgence homosexuelle. Donc il y avait des comme les ratonnades pour les copains issus d'immigration. Il y avait des ratonnades homophobes, bien sûr. Donc voilà, il y a eu tout un courant à un moment donné qui s'est vraiment battu pour les lois liberticides anti-homo, aussi bien que les lois racistes. Et Homophonie, on l'a beaucoup visibilisé.
Et quelle a été sa durée de vie, Homophonie ?
Alors Homophonie, ben écoute, je te le dis dans 3 minutes. Ouais.
Le phare, c'était donc le.
Le phare, c'était 69 au Beaux-Arts, entre autres.
Le front
homosexuel, d'action révolutionnaire, qui dénonçait la bourgeoisie, la famille, l'hétéro-normalité, voilà.
Est-ce que tu voulais apporter quelque chose ?
Non, je parlais juste de la revue Masque. Tu demandais s'il y avait des revues mixtes, et celle-là en fait partie. C'est aussi une très bonne revue, notamment du point de vue de la littérature. Il y avait des interviews de romancières lesbiennes.
Si on veut lire ces revues, où est-ce qu'on peut les trouver maintenant ?
Aux archives lesbiennes.
Alors, essentiellement aux archives lesbiennes, vous pouvez les trouver aussi à Marguerite Durand, bien sûr, oui. Même si on peut critiquer Marguerite Durand sur son fond lesbien. C'est-à-dire que grâce à une lesbienne qui travaille aux archives, enfin, qui, quand je dis travail, c'est du travail militant, hein, c'est gratuit, grâce à une jeune lesbienne qui travaille aux archives, qui a fait un stage à Marguerite Durand, elle a visibilisé une grande partie du fond lesbien qui était, bon, disait-elle, elles n'avaient pas le temps. Elles étaient débordées pour y travailler. Et entre autres, le fonds Catherine Gonard de Lesbia Magazine était enterré là depuis 98 à peu près, ce qui est quand même. Et donc ça a été revisibilisé il y a 6 mois.
Donc pour information, la Marguerite Durand, c'est la bibliothèque près de Tolbiac.
Oui, en face
avec
de
un
Tolbiac.
Fonds féministe.
C'est à la bibliothèque Herman Melville. C'est au sein de la bibliothèque. Et les archives, on peut préciser peut-être, c'est toujours ouvert de 19h à 21h le jeudi soir. On ne peut pas y aller tout le temps, non mixte.
Tu me montrais, donc on peut à la limite commenter ce que tu étais en train de me montrer là.
Oui, tout ouais. à fait. Donc on se posait la question d'homophonie. Et c'est vrai que moi j'ai choisi, c'est vrai que comme je suis graphiste, j'ai vraiment travaillé énormément sur les visuels hein, dans le bouquin Mouvement de presse, parce que pour moi c'était important le fond et la forme avec des interviews. Donc il y a une interview de Catherine Gonard qui, avant de travailler à Lesbia Magazine et en devenir la rédac chef, était au Miel. Donc le Miel, c'était un mouvement d'information lesbien. Alors le E, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. Et donc elle a travaillé à Homophonie un certain temps.
Alors donc c'est un. Et là, je peux lire ça, non ?
Oui, non ? Ça serait super. Juste, on le rappelle quand a existé Homophonie ?
Tu l'as, regarde le numéro 1.
Ah oui, donc c'est le 1er novembre 1980, c'est ça ?
Ouais.
Non ?
Oui, oui.
Ouais, 1er novembre 1980.
Donc pas encore la dépénalisation de l'homosexualité, hein, puisque c'était en 81.
Ouais. Jusqu'en juin 86.
Ouais.
Je dois lire tout le texte ?
Bon, non, comme tu veux.
Jeudi 16 octobre 1980, le Sénat a refusé l'organisation de la loi la plus répressive contre les homosexuels et les lesbiennes. L'article 331, alinéa 3... au code pénal qui interdit les rapports homosexuels avant 18 ans, alors que les rapports hétérosexuels sont possibles à partir de 15 ans. C'est une véritable volte-face au Sénat qui cède ainsi à la volonté de tous ceux qui développent aujourd'hui le racisme anti-homosexuel. Au moment où le pays entier s'est élevé contre la recrudescence des racismes, le Sénat vient de donner raison aux groupes fascistes qui, comme le Renouveau français, font aujourd'hui signer une pétition demandant le maintien de l'application avec fermeté de l'article 331 du code pénal et l'expulsion de tous les homosexuels étrangers. Et on peut en dire, mais c'est fou, ça.
Mais voilà.
Alors, justement, cet extrait montre l'importance de pérenniser, en fait, les mémoires et de conserver cette histoire, de ne pas oublier d'où on vient et qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc, c'était même le but, l'objectif dans la création des archives lesbiennes. Est-ce que
tout à fait.
Tu peux nous en dire un peu plus, Michel, sur cette création?
Sur le fond des archives,
oui.
sur le collectif. Oui. Donc le collectif, il a été créé, il y a eu deux collectifs avant que ça se nomme Archives Recherche Culture Lesbienne, c'est donc une association, loi 1901. On a été dans plusieurs endroits. Moi, quand j'ai repris le collectif avec cinq autres copines, on était encore dans un petit appartement du 4e arrondissement, du 11e arrondissement, pardon. Et en fait, la Maison des Femmes de Paris, qui était à l'époque dans le 11e aussi, avait un rez-de-chaussée qui était vide et puis elle avait besoin de sous. Donc on s'est installé au rez-de-chaussée, qui était un ancien garage qu'on a complètement remeublé. Et en fait, là, on a commencé à être beaucoup plus visible. C'était un rez-de-chaussée, donc accessible aux handicapés, accessible à des personnes, à des femmes, hein, uniquement femmes, lesbiennes, trans. On va dire facilement, alors que ce quatrième étage était presque clandestin. Et puis on a fait des soirées, on a commencé, donc au milieu des années 90, on a commencé à faire des soirées, on invitait des écrivaines et on visibilisait un peu le fond. Voilà. On a commencé aussi à visibiliser les affiches. On a fait les premières expos à la mairie du 11e. Et après, moi, je me suis baladée dans plein de mairies en imposant des affiches homo, féministes, lesbiennes. Les jours de mariage, ils se retrouvaient avec des affiches tout autour d'eux dans toutes les mairies des arrondissements. J'adorais ce genre d'impro, on va dire, de performance. Et puis... on a visibilisé aussi tout le fond photo. Voilà, ça, c'était vraiment les premiers trucs que moi, j'ai adoré faire parce que c'est, ça donnait envie aussi de voir et puis de faire circuler, quoi. Voilà. On a fait notre premier CD, donc quelque chose, le premier truc virtuel, c'était pour les affiches. Donc, on a scanné, pris en photo et mis en CD 300 affiches.
Après. Isabelle est toujours avec nous par téléphone, non ?
Oui.
Oui, tout à fait.
Ah bien.
C'est très intéressant, en fait. C'est des choses dont je n'avais pas du tout conscience. Et, non, c'est oui. Le texte que vous avez lu, là, sur le texte de loi, c'est oui. Pour mettre tous les homosexuels étrangers dehors. Voilà, c'est assez marquant, quand même. Oui.
Le FN a été créé en 72 et entre les années 80 et 90, par exemple, on a eu des menaces d'attentats en 90-91, aux archives lesbiennes, c'est-à-dire un cinquième étage de la rue Sedaine bien planqué, on a eu des menaces en nous disant, on vous prévient, vous continuez à vous visibiliser, à être archives et à être lesbienne et à commencer à vraiment, on commençait à être connu un peu, on vous fait sauter. Voilà, voilà, ça c'est les années 90. Hein. C'est-à-dire que le FN reprend du poil de la bête, il y a Ralph Front qui se crée, voilà, il y a vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces années-là aussi, c'est pour moi la troisième vague de féminisme et de lesbianisme, avec les Marie Paclaire et de très jeunes filles, très jeunes femmes, filles et garçons, qui, après l'horreur du sida, vont commencer à se regrouper, à se mobiliser entre racisme, sexisme et homophobie. Donc ça, c'est vraiment. Et ça, c'est une chose dont les vieilles, entre guillemets, dont je suis, ne parlent jamais ou très rarement, c'est-à-dire cette troisième vague. Voilà. Et ça, c'est. Enfin, je pense que c'est plus parlant que les années 70, même s'il ne faut absolument pas oublier. Mais je pense que là, les années 90, c'est Lyon, Toulouse, Aix-Marseille, Lille, Rennes. Enfin, il se passe énormément de choses. Toutes les filles qui sont de ces régions-là savent très bien tout ce qui s'est passé entre les années 95, 98 et 2000. Il y a vraiment énormément de choses qui se sont passées partout en France. Et puis, je tiens toujours à dire aussi les revues, je pense que plutôt en Martinique d'ailleurs, mais il y a eu une visibilité qui n'existait pas 10 ou 15 ans où il y avait une grande peur. Bon, pareil en Guyane. En Guyane, il y a un milieu lesbien, même s'il est, il est pas évident. Et voilà, il s'affirme autrement qu'il y a 20 ans.
Merci.
Je t'en prie.
On va donc maintenant passer au deuxième titre de musique, Boom Boom, de l'artiste américaine Jenny Lee. Thank you.
Gouinement Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.
De retour à Gouinement Lundi, nous avons par téléphone Isabelle, qui est toujours là, j'espère. Isabelle de Lyon, ça va ?
Tout à fait.
Ouais. Une autre Isabelle aussi qu'on n'a pas présentée, c'est celle qui réalise l'émission. Bonsoir Isabelle, non, elle ne peut plus parler pour l'instant. Si je vais lui donner la parole dans quelques secondes. Donc là, on en arrive donc à la dernière partie de l'émission. Quelle représentation des lesbiennes dans les médias ? Je sais que Isabelle, qui réalise l'émission, regarde régulièrement Plus belle la vie.
Et donc, ça tombe bien, justement, puisque Stéphanie, avec nous, a analysé les représentations des lesbiennes dans Plus belle la vie. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette série ?
Alors, ça ne fait pas sérieux comme ça de dire qu'on regarde Plus belle la vie. Il y a de l'outing dans l'air. Donc, je vais en faire un autre. Mon acolyte, la sociologue et anthropologue Natacha Chetkuti, qui travaille exactement sur ce sujet-là, sur les lesbiennes en particulier, pas que, mais qui a publié un super livre qui s'appelle Se dire lesbienne, et avec qui on a découvert ce vice caché qu'on avait en commun de regarder Plus belle la vie assidûment. On s'est dit, bon, on va faire quelque chose de sérieux sur ce sujet. Même si c'est une série populaire inconsidérée, parce qu'en fait ça a un impact énorme, cette série. C'est regardé par plus de 5 millions de téléspectateurs tous les jours, sauf samedi et dimanche, et donc il y a presque plus de 3000 épisodes aujourd'hui. Donc on s'est dit, et effectivement il y a des personnes gays et lesbiennes et bi à l'intérieur de la série, donc on s'est dit on va regarder comment c'est représenté pour voir ce que voient les gens, ce que voient 5 millions de personnes tous les jours à la télévision, plus que ce qu'on pourra jamais faire en tant qu'intervention contre l'homophobie, la lesbophobie, etc. Et effectivement, le premier baiser lesbien, le premier baiser entre deux femmes, il date du 2 janvier 2006 dans la série, donc à une époque où à la télévision française, on voyait pas trop de lesbiennes à la télé, ou de manière extrêmement stéréotypée. Et puis le dernier, il date de février 2013. Et entre les deux, il y a eu des épisodes d'homosexualité féminine dans presque chaque saison. Enfin. Donc on s'est dit, voilà, c'est vraiment fondamental de regarder comment c'est montré. Ce qu'il faut savoir sur le fond de la série, la mise en perspective, c'est que c'est une série qui promeut le vivre ensemble. Il y a une visibilité assez importante des minorités et une image assez favorable, en tout cas, de ce qu'on en a vu de l'homosexualité. Donc on a compté une quinzaine de personnages gays, lesbiennes, bi depuis le début, donc c'est quand même assez important, même s'il y en a certains qui durent pas très longtemps. Et quelle représentation justement donc on a pu voir des lesbiennes et des femmes bi dans cette série ? Alors d'une part, comme partout, il y a une différence de traitement entre les hommes et les femmes, hein, donc ça c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une disproportion importante, alors à la fois en termes de nombre de personnages, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de gays et de... Il y a beaucoup plus d'hommes homo que de femmes homo ou bi, puisqu'on en a compté 16 contre 7 lesbiennes et une bi. Essentiellement, qui gravitent essentiellement, alors je ne sais pas si vous connaissez les personnages par cœur, mais essentiellement autour de Thomas Marcy, donc qui est le barman gay, qui lui est assez connu, hein, qui par ailleurs a fait son coming out, la personne réelle, l'acteur a fait son coming out par ailleurs. Donc ça a eu d'autant plus de retentissement. Et puis Céline Frémont, donc, qui est une femme qui se dit bi. Voilà, qui s'identifie comme bi. Et donc, la plus longue histoire entre deux femmes dans la série, c'était en 2008, donc c'était il y a un petit moment, mais ça a duré 205. Alors, pour vous montrer la disproportion, encore une fois, entre les gays et les lesbiennes, donc entre l'homosexualité féminine et masculine, il y a 250 épisodes au long cours entre Céline et sa petite amie Virginie, et entre Thomas et Gabriel, donc ça dure depuis 900 épisodes, vous voyez, ils sont discontinués, donc ça, c'est une histoire vraiment qui continue, En revanche, là où c'est important quand même, c'est que dans cette série, on a vu des femmes qui assument leur homosexualité, leur bisexualité. Ils sont des personnages plutôt positifs. Enfin, donc après, il faut voir donc, l'article, on peut le lire en ligne. Justement, on parlait d'Internet tout à l'heure et de l'importance d'Internet pour la visibilité. Notre article avec Natacha, il est en ligne sur un site qui s'appelle Diacritique. Donc il est en intégralité. Il a été publié une première fois aux éditions des Ailes sur un tracteur dans la revue Miroir Miroir, mais il a été repris ensuite en ligne. Donc ça veut dire que c'est accessible. Donc vous pouvez tous et toutes le lire pour savoir tout ce qui se passe dans Plus belle la vie. Alors ce qu'on a vu globalement, je vais le faire assez vite, mais c'est notamment une évolution positive des représentations en fait. Puisque la première représentation, je vous l'ai dit, la première histoire c'est en 2006.
Donc ça, c'est avec une personne plutôt jeune, enfin une femme jeune. Donc c'était un mode qu'on a qualifié plutôt dramatique ou tragique. Donc là, on est plus dans les représentations habituelles de l'homosexualité féminine, où ça se passe mal, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc Isabelle l'a dit tout à l'heure. Je ne sais plus comment elle a dit le préjugé.
C'était morte ou mauvaise.
Voilà, morte ou mauvaise. Là, c'est un peu mieux, mais enfin disons que c'est vraiment un personnage d'adolescente, super mal dans sa peau, complètement en rupture sociale, qui en fugue, bon, qui a été violée. C'est un viol lesbophobe, etc. Donc vraiment, c'est associé à de la difficulté, de la douleur, etc., de la solitude et à de la violence aussi, parce que c'est quelqu'un d'assez violent. Et à des amours sans issue, malheureuses. Enfin bon, elle s'éprend d'une femme avec qui ça peut pas du tout marcher, enfin, etc. Et puis en 2008, on a l'histoire donc dont je vous parlais avec entre Virginie et Céline. Donc ça, on a qualifié un mode progressiste. Donc 2 ans plus tard, où là, effectivement, on a une histoire d'amour, on a de la conjugalité. Évidemment, il y a des difficultés qui sont liées à la prise de conscience de son homosexualité, en l'occurrence de sa bisexualité, puisque Céline est bisexuelle. Mais après, voilà, il y a quand même de la conjugalité, il y a de l'amour. Elles vivent leur histoire, elles pensent même à faire un enfant, etc. On est en 2008 quand même, donc encore une fois, la télévision française, à cette époque-là, c'est pas non plus très fréquent. On est à une heure de très grande écoute, enfin voilà. Et puis il y a le dernier mode qu'on a qualifié de pédagogique, c'était le dernier, donc ça c'était en décembre 2012, février 2013, entre Léa et Cristal, donc ça a été un petit peu plus médiatisé, c'est 2 adolescentes, donc là on retombe à l'âge de l'adolescence, hein, c'est souvent les personnages adolescentes qui se découvrent, etc. Mais là c'est un mode vraiment positif, où la personne qui est stigmatisée, ce n'est plus la personne qui est lesbienne, mais c'est la personne, un des pères en fait, qui est lesbophobe, enfin qui a au départ du mal du moins à accepter l'homosexualité de sa fille, et qui va être le personnage à qui il ne faut pas ressembler. Enfin, c'est lui qui va être finalement qui va être rejeté en fait par l'entourage de la jeune fille, etc. Donc voilà, donc c'est plutôt une histoire positive qui finit bien, et on a perçu comme ça une évolution. Et en plus, ce qu'il faut aussi dire, que c'était dans le contexte des débats autour du mariage, donc ça je pounçais quand même, si on peut le dire, et la série Plus belle la vie avait pris d'une certaine manière position, de manière très claire, pour le mariage, donc il y avait même le mariage, bon alors c'est entre deux hommes, hein, encore une fois on voit l'inégalité de la visibilité homme-femme, mais donc c'était en juillet 2013, et il y avait donc Thomas qui épousait quand même son compagnon en pleine période où ça débattait sérieusement de ça. Voilà, donc après, il y a aussi la représentation de l'homosexualité. Peut-être, tu vois.
Oui, je voulais poser la question justement de savoir, cette homosexualité qui est féminine, qui est représentée, elle reste quand même assez consensuelle. Par exemple, la figure de la butte ou de la communeuse ou une figure d'une lesbienne masculine, c'est plutôt encore une figure repoussoire dans Plus belle la vie.
Alors, disons que c'est... Alors, c'est vrai, c'est intéressant. On a trouvé que c'est une homosexualité de bon ton, ce qu'on a qualifié de bon ton. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, tu l'as dit, consensuel, faut que ça passe. Alors, ça veut dire que effectivement, ce sont des lesbiennes féminines, enfin socialement, comme on peut qualifier de féminines, qui sont disons dans les normes ou dans les canons de la féminité, dans les normes sociales.
Est-ce qu'on peut préciser, enfin par exemple, qu'est-ce que c'est?
Ah oui, c'est classique.
Je sais, mais.
Voilà, c'est vrai que c'est intéressant. On va dire grossièrement des femmes plutôt minces, blanches, cheveux longs, enfin vraiment des.
Plutôt blondes.
Voilà, il y a parfois une blonde et une brune. Hein. Bah, d'ailleurs, c'est la lesbienne la plus. Ça, c'est pareil, voilà, c'est la lesbienne la plus. Critique pas la série. c'est la lesbienne, la plus lesbienne, en tout cas, celle qui s'assume le plus. Qui sera brune, enfin bon, etc. Ça c'est vraiment bon. Par le coup, on est encore un petit peu dans les clichés, mais, ce qu'on s'est dit quand même, c'est que en fait, c'est dans une optique de casser les idées reçues en fait. C'est-à-dire que en fait, ils ont été un peu pris à leur propre jeu. C'est-à-dire que s'ils avaient mis une lesbienne entre guillemets masculine, on aurait dit ça veut dire qu'on associe encore l'homosexualité féminine à la masculinité. Donc du coup, ils se sont dit bon, enfin c'est en tout cas comme ça qu'on a interprété
bien
les
sûr.
Choses.
Comme ça.
Donc ils se sont dit on va essayer de casser les clichés en mettant des lesbiennes plus féminines. Il y a une autre chose aussi, c'est que du coup il fallait pas non plus bousculer le téléspectateur parce que c'est contre-productif. L'idée de la série, c'est de faire accepter les minorités, donc effectivement. Et puis aussi, ils montrent une société sans communautarisme. Enfin, ils montrent des minorités, mais il faut surtout pas que ce soit communautaire. communautaire. Donc, on ne parle jamais de la communauté LGBT, elles ne sont pas militantes, elles ne lisent jamais de livres lesbiens. Hein, donc...
Elles essaient de s'intégrer ou elles s'intègrent.
Voilà, on croirait qu'il n'y a même pas de culture, en fait. Non, voilà, enfin, voilà, il n'y a pas de culture LGBT de mentionner. Hein, c'est éventuellement une boîte de ci, de là, mais enfin, on ne les voit pas, jamais en boîte. Voilà. Mais bon, c'était tout de même intéressant, en tout cas, de voir ces personnages.
Isabelle, il y a aussi une autre... vous me parliez, vous, des web-séries qui existent sur Internet.
Et ce qui est intéressant, je trouve, parce que c'est Plus belle la vie, ils ont été en avance, si on regarde, par rapport aux séries françaises qui, après, sont apparues. On pourrait penser à C'est pas ci, c'est pas ça, qui a intégré, là aussi, des jeunes. Une jeune fille qui révèle à ses parents les cadeaux un peu coincés, que, du coup, elle est amoureuse d'une fille et les parents n'arrivent pas à l'accepter. C'est un peu la même chose, en fait. Et Plus belle la vie l'a fait en amont.
Ouais, ce qui était intéressant, juste pour compléter, c'est vrai que Fais pas ci, fais pas ça, c'est vraiment super de ce point de vue aussi, parce que la petite Charlotte donc découvre qu'elle est lesbienne, et puis sa mère, alors elle est adjointe à la mairie, je crois, puis alors elle veut dans une ville genre Neuilly, enfin, et elle veut pas du tout marier un couple de lesbiennes qui viennent pour se marier, elle refuse de les marier, puis après elle finit par changer, et elle marie ce couple aussi pour comment dirais-je consolider, enfin faire évoluer le rapport avec sa propre fille qui a découvert son homosexualité. Donc c'est hyper rigolo en fait.
Oui, oui. Et du coup, je trouve que dans les séries françaises, ils sont en train d'aller un peu plus loin que effectivement qu'on avait un peu l'habitude de voir. On sent qu'il commence à y avoir un discours, voilà, d'acceptation, et puis il y a un peu d'humour qu'on n'avait pas forcément avant. Enfin, je trouve que C'est pas ci, c'est pas ça, et 10% qui a été une série dernièrement. Pareil, l'un des personnages, enfin, il y a une Camille Cotin qui joue une lesbienne. C'est su depuis le début, c'est son assistante qui gère ses copines, etc. Enfin, il y a quand même une bonne dose d'humour et de dérision là-dedans, et je trouve que c'est super intéressant dans les séries françaises qui sont en train d'arriver, qu'on n'avait pas forcément avant.
Et vous...
Les Canadiens ont depuis longtemps, mais c'est pas donc.
Pardon ?
Les Canadiens, je crois, ils ont des séries depuis plus longtemps. Ils ont Unité 9, Trauma, où il y avait des lesbiennes, voilà, ils sont un peu en avance par rapport à nous, sur le mariage, sur plein de choses. Et c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que ça commence à arriver. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça met un peu de temps, mais c'est en train d'arriver, quoi.
Oui, Michel.
Bah, juste une petite réflexion. Encore une fois, je suis très douée pour la provo. Il faut quand même savoir que de plus en plus d'homosexuels, hommes comme femmes, votent très à droite, si ce n'est même Front National. Donc, à quoi servent les médias? Que diffusent-ils? Et pourquoi, aujourd'hui, on doit s'interroger? On doit s'interroger sur cette posture homo-nationale et sur le fait qu'une visibilité homo, quelle visibilité, propre sur elle, on le disait, et pourquoi les médias décident de développer de plus en plus. Moi, je pense, oui, c'est vrai qu'en période mariage pour tous, avec des milliers de gens, des cathos intégristes dans la rue, évidemment que c'était vraiment important de faire un contrepoids médiatique dans des séries, donc dans des fictions, mais en même temps, voilà, nous sommes en 2016 et voilà, on n'est plus dans la période où on dénonçait la famille, le capitalisme, l'hétéro-normalité.
Et Isabelle, vous me parliez des web-séries aussi qui existaient plus au Canada.
Oui, oui. Il y avait la. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Féminin, la web-série de Chloé Robichaud. C'est assez génial et c'est la seule web-série en langue francophone qu'on ait. Puisque en France, il y avait eu des idées qui n'ont jamais abouti. Et je trouve que c'est un nouveau média dont s'emparent les lesbiennes qui peut permettre de faire éclore des choses assez exceptionnelles.
On pourrait encore rester des heures et des heures ensemble, mais l'émission touche à sa fin. Il y a une partie culturelle.
Oui, une chronique culture après une petite pause.
Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.
Donc, la chronique culture, elle sera très brève. C'est juste pour annoncer donc, les événements à venir, donc à noter dans vos agendas. Donc, ce vendredi au Barouf, ce sera le vendredi des femmes du centre LGBT qui réalise sa soirée Open Art Night, qui vise à célébrer les créations artistiques des femmes par une soirée mélangeant performance, musique slam et open mic. Et ce dimanche au Souffleur, l'association Polychrome organise son apéro pour se protéger de la vague de froid, qui déferle avec en guest les membres de Poussy Chérie. Le 4 février, la kidnapping au Rosa Bonheur sera consacré au Gwyn, avec comme mot d'ordre « plus de Gwyn, more Gwyn, muchas Gwynas », avec au platine que des DJ femmes. Le vendredi 12 février, la soirée des dégommeuses est organisée aussi au cadran du Faubourg. Donc les Dégommeuses, c'est une équipe de foot majoritairement composée de lesbiennes qui utilisent donc le sport pour lutter contre les discriminations. L'association FIER, donc aussi partenaire de l'émission, fera son thé au gazon au tango le dimanche 21 février. Et, attention, la première soirée Gouinement lundi, le 26 février, à la Mutinerie à Paris. Notez-le aussi. Et enfin, il reste encore du temps jusqu'au 5 mars pour apporter ses contributions au programme de la Queer Week qui est en cours d'élaboration, donc surtout avec des travaux, si vous voulez, autour du corps, de la sexualité, du genre. Donc, ça peut être de pornographie, court-métrage, images, vidéos ou performances, avec un mail pour s'exprimer. Donc, c'est art.queerweek@gmail.com. Et pour apporter ses contributions aussi à la Queerzine Fair, donc c'est un événement qui aura lieu en mars, pour promouvoir la micro-édition queer en France et de mettre en avant les productions qui respectent donc l'esprit do-it-yourself et militant. Pour participer, c'est jusqu'au 15 février, donc il ne reste plus beaucoup de temps, à l'adresse coucou@queerweek.com. Et enfin, au cinéma, n'oubliez pas d'aller voir quand même peut-être Carole et The Danish Girl, enfin, si vous voulez.
Merci, Émilie.
Sappho, tribade, oui. Lesbienne, éjaculation, cyprine, lesbique, poil aux aisselles, chemise à carreaux,
doigts, femme fontaine, Hélène Page, pierre, cunilingus, corde, brouteuse de gazon, téton, oreille, cyprine, femme fontaine, de timbre, Hélène Page, pierre, cunilingus, brouteuse de gazon, lubrifiant, cyprine, femme,
en partenariat avec FIER, SOS Homophobie et l'Inter-LGBT,
Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.
Tous les derniers lundis de chaque mois.
Femme, lipstick, Amazon, fière, routeuse de gazon,
colleuse de timbre.